Le droit et nous, dans le plus de la grande matinale, avec Aliutal sur Africa Radio.
Bienvenue à tous. Réponse aux questions des auditeurs. Nous continuons les échanges avec vous, chers auditeurs, pour répondre à toutes vos questions relatives au titre de séjour, au regroupement familial, au droit d'asile et à la naturalisation. Je reprends. On va parler du titre de séjour, du regroupement familial, du droit d'asile et à la naturalisation. Avant de donner la parole aux auditeurs, Aliutal, bonjour.
Bonjour Phil.
Alors, existe-t-il d'autres catégories d'étrangers qui sont protégés contre toute procédure d'éloignement ?
Oui, c'est très bien de préciser, à la suite de ce qu'on avait entamé la dernière fois, effectivement qu'il existe d'autres étrangers pour qui l'administration ne peut pas prendre une mesure d'éloignement efficace. Efficace, ça veut dire que même si ça a été pris, ça ne sera pas exécuté par le juge des libertés, va se rendre compte qu'effectivement cet étranger est protégé. Ça, c'est au pire des cas. Sinon, votre avocat ou la personne qui vous conseille doit vous dire cela. Après, ce qu'on avait dit, il y a d'autres catégories qui sont les suivantes. En l'occurrence, aucun étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français si son éloignement risque de causer des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa vie personnelle. On ne parle pas de la maladie comme on l'a traité la dernière fois. Par exemple, de sa vie personnelle, la séparation avec ses enfants, dont il a la charge et l'autorité parentale, d'autant plus qu'il a l'obligation de participer à l'éducation et à l'entretien des enfants comme le veut l'article L372-1 du Code civil. Si cela risque de créer une rupture désagréable, inadmissible, intolérable d'une relation conjugale effective et affective, si cela risque de causer de graves dégradations aussi, quelque part, pour son état de santé, pour quelqu'un qui, même si on se rend compte que cette personne ne remplit pas les critères d'admission au séjour au titre de la maladie prévue par l'article L313-11-11, et que quand même, pour des motifs humanitaires, cela risque de créer des conséquences vraiment inadmissibles humainement. Aucun étranger ne peut être éloigné si toute sa vie privée est en France et que l'éloignement risque de mettre cet étranger dans un isolement familial.
Ouais.
On a dit la dernière fois l'article 8 de la Convention européenne qui pose le principe du droit à une vie privée familiale normale. Aucun étranger ne peut non plus être éloigné dans son pays si sa liberté y est menacée ou s'il risque des traitements inhumains et dégradants. On a abordé à ce niveau, mais sous un autre angle, les dispositions de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et qui effectivement protège tout individu contre des traitements dégradants ou inhumains. Et dans ce sens, on a même un droit à une protection subsidiaire au titre du droit d'asile.
Oui.
Et ainsi, il en est de l'article L312-1 du Code des étrangers qui prévoit que l'étranger a droit à une protection subsidiaire s'il est exposé dans son pays à des peines ou traitements inhumains et dégradants. Il en est ainsi, on l'a étudié avec Phil, mais il y a quelques mois ou deux mois, des violences conjugales qui ne sont pas tolérées, de l'excision, on l'a traité aussi.
Oui.
Même pour certaines personnes, de l'homosexualité.
Justement, c'est ça allait être ma question. Qu'en est-il de l'homosexualité qui n'est pas tolérée dans certains pays ?
Effectivement, dans certains pays, les homosexuels risquent des traitements inhumains et dégradants.
Mmh.
Voilà. Après, maintenant, ça dépend. En tout cas, au moins dégradant. Maintenant, inhumain, les gens pensent que c'est l'homosexualité elle-même qui n'est pas humaine. Ça, c'est des positions en fonction des pays où on se trouve, en fonction des cultures, des coutumes et des religions. Donc, voilà. Mais dans tous les cas, dans les pays européens et dans la majeure partie des pays qui ont signé les conventions contre ces traitements inhumains et dégradants, ouais, on considère que les homosexuels constituent un groupe social persécuté.
Justement, est-ce que cela peut-il admettre au titre de séjour, par exemple, pour des personnes qui sont homosexuelles en situation irrégulière, qui ne peuvent pas retourner dans leur pays, par exemple ?
Oui, effectivement, à deux niveaux, ce que vous dites est très intéressant, à deux niveaux. Du seul fait qu'ils soient homosexuels, ils peuvent prétendre à une protection subsidiaire et à un titre de séjour.
Mmh.
À partir du moment où cela relève d'une disposition européenne et d'une jurisprudence européenne, dans leur pays, il existe des lois qui condamnent l'homosexualité en tant que telle.
Mmh.
Parfois, ce n'est pas le pays, c'est la société qui est répulsive à l'homosexualité et qui frappe des homosexuels, qui les jette des cailloux.
Ou la religion.
Dans des pays comme le Sénégal, par exemple, où parfois, quand on dit homosexuel, les gens sont vraiment virulents. Là, c'est la société. Ce sont des traitements dégradants.
Religion.
Oui, la religion. Ça peut être la religion, ça peut être la loi elle-même. Parfois, la religion, c'est encore un fait social. Mais quand c'est la loi, c'est plus fort que la religion,
exactement,
au niveau de la prohibition.
Mmh.
Parce que la religion, tout le monde n'a pas la même religion dans un pays. Et puis même dans une même religion, tout le monde n'a pas la même conception, ni la même intolérance. Alors que quand c'est la loi, c'est la loi. Il y a des pays où c'est la loi qui interdit les actes contre nature. et qui qualifie l'homosexualité comme un acte contre nature. C'est le cas d'un pays que je cite comme le Sénégal où l'article 319 du code pénal interdit clairement ces actes-là. Et que, de surplus, la société elle-même ne tolère pas cette homosexualité. On ne fait pas de jugement de valeur. Hein. Je ne dis pas que c'est bon, c'est pas bon. Je dis ce que la loi dit. Après maintenant, il y a certains pays aussi qui pensent que l'homosexualité est un droit. Ces pays ne l'ont pas toujours ainsi vu. Je donne l'exemple de la France. Les gens n'ont pas été toujours tolérants vis-à-vis de l'homosexualité. Mmh. C'est récemment qu'il y a eu des lois avec beaucoup de manifestations, de soubresauts, de contradictions et de contestations pour aboutir à ce que l'homosexualité soit actée comme un droit et que même ces homosexuels aient le droit de se marier avec la fameuse loi Taubira et que même ces homosexuels aient le droit de faire une adoption. Donc ça, c'est une question de politique sociale. On ne peut pas juger, mais dans certains pays, l'homosexualité est interdite. Si vous venez de ces pays-là, vous avez droit à une protection subsidiaire dans ces autres pays qui considèrent que l'homosexualité, c'est un droit. Et maintenant, de manière internationale, on considère que ces traitements dégradants appliqués à une personne au regard de son orientation sexuelle ouais. constituent un traitement dégradant et inhumain qui ouvre droit à un titre de séjour. Donc, question très intéressante. Retenir aussi qu'aucun demandeur d'asile ne peut être éloigné tant qu'une décision n'est pas prise sur sa demande. C'est le principe de non-refoulement qui est prévu par l'article 3 de la Convention de Genève relative aux droits des réfugiés. Rappelons que cette Convention de Genève de 1951 prévoit que toute personne craignant avec raison d'être persécutée du fait de son appartenance à un certain groupe social et qui ne peut pas ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d'origine peut avoir le droit d'asile. On a parlé récemment des personnes qui parfois, parce qu'elles n'ont pas les mêmes convictions que le régime en place, ont parfois même des difficultés d'avoir des documents diplomatiques dans le pays où ils se trouvent. On va aborder cette question. De ce seul fait, les personnes pourraient dire que moi, je n'ai pas confiance à mon pays-là. Je ne veux pas y aller. Donc, ce n'est pas ne pas vouloir et ne pas aussi pouvoir, mais ne pas vouloir. Alors, on n'a pas du tout confiance, on peut réclamer
alors,
cette protection.
À Lutel, j'ai reçu un petit message en inbox pendant qu'on parlait de la situation des homosexuels. Mmh. Faut-il prouver justement son orientation sexuelle devant les autorités si on demandait justement de prouver son homosexualité? Est-ce que c'est possible?
Non, si c'était le cas, je pense que beaucoup de gens vont se rétracter. Et même ça, ce serait un traitement inhumain et dégradant. Ouais, vous comprenez, je pense.
Exact.
Le fait de dire, monsieur, prouvez-nous que vraiment, vous n'êtes pas hétéro. Embrassez votre ami là que vous présumez. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, oulala. Parce que, honnêtement, dans les faits, il y a des gens qui ont prétendu être homosexuels et qui ne le sont pas dans les faits.
Ouais.
Je donne un exemple, même quelqu'un que je conseille, je ne veux pas dire rien du tout, et qu'il a prétendu qu'il était homosexuel. À l'association, ça le remonte à 5 ans. Mm-hmm. On lui a fait une demande, d'après ses prétentions, la personne a eu le droit d'asile. Ouais. Après, il me téléphone, il me dit wow, « je suis content, mais un peu suspect quand même, un peu circonspect parce que je ne sais pas, est-ce qu'il ne va pas me marquer dans le motif de séjour le mot que je ne vais pas dire ?» Il est deux lettres pour dire « homosexuel
ouais. ».
Parce qu'il me dit « si c'est le cas, moi je râle le titre de séjour parce que en réalité, je ne le suis pas. J'étais manque de titre de séjour. » Donc effectivement, ils ne vont pas demander à une personne ou à une fille d'embrasser une autre fille. Il faut quand même prouver, donner des éléments, des indices qui peuvent attester la réalité de ce que vous prétendez.
Exact.
Et même au niveau de l'asile, ce n'est pas ça qui compte, c'est plutôt les persécutions, parce qu'on est libre de dire qu'on est de telle orientation ou pas. Mm-hmm. Maintenant, les risques qui sont issus de cette orientation, ça, il faut les démontrer. Mais pas l'orientation en tant que telle. On est libre d'être hétéro. Dans les pays européens, on est libre d'être aussi homosexuel. Voilà, chacun fait son choix. Dans d'autres pays, on n'est pas libre du tout.
Ouais.
Si vous êtes homosexuel, vous êtes coupable de ce seul fait.
Exact.
Donc, il faut savoir où vous le faites. Chacun est libre de son droit et de sa vie. Aucun étranger ne peut être éloigné s'il est apatride. C'est très important. La Convention de New York relative au statut des apatrides, adoptée le 28 septembre 1954, on l'a étudiée il y a un an, et entrée en vigueur le 6 juin 1960, définit l'apatridie comme une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. Ce qui fait que des personnes se retrouvent sans nationalité. Il y a une Togolaise en temps, du fait que ses parents ont beaucoup voyagé, ne l'ont pas déclaré à temps parce que c'était dans la diplomatie, et qui se retrouve en France sans papier, mais sans titre de séjour, sans nationalité d'aucun pays.
Ah.
Elle a fait un titre de séjour, ça a été rejeté.
Ah.
Elle nous contacte.
Apatridie.
Pendant ce temps, j'avais la mission ministérielle. Elle accompagnait quelqu'un. C'était une mission de naturalisation. Elle m'a posé la question. Mais ça m'a touché. Et j'ai étudié le cas. J'ai dit, mais madame, on ne peut pas vous refuser un droit de séjour en France. Arrêtez de faire des demandes classiques. Elle a fait beaucoup de demandes avec des associations, même avec des spécialistes du droit, qui n'ont pas cerné que cette personne avait le droit automatiquement de plein droit à un titre de séjour en tant qu'apatride. Parce qu'on ne pouvait pas le ramener quelque part, on ne pouvait pas l'expulser parce qu'on ne savait pas sa nationalité, on ne voulait pas lui donner le titre de séjour ici en France. On a utilisé l'apatridie pour lui permettre d'avoir un titre de séjour.
Alors nous allons prendre cet auditeur qui est en ligne avant de poursuivre avec nos questions. Allô, allô, bonjour.
Bonjour monsieur.
Bonjour, c'est monsieur.
Oui, c'est mon prénom est Camille. Bonjour monsieur Alital.
Bonjour monsieur Camille.
Camille, nous vous écoutons.
Bonjour Camille, oui.
Oui. Bon, j'aimerais savoir par rapport à l'OQTF.
Ah, l'OQTF. Ouais. Obligation de quitter le territoire français.
Exactement, exactement. Ben, ma compagne, ça fait un bout de temps, on a refusé son dossier à la CNDA. Ça fait au moins pratiquement 3 ans. Bon, à l'adresse, parce qu'elle était à la FTDA, France Terre d'Asile. Là-bas, vu qu'ici, si on te rejette à la cour, et peut-être après 6 mois, ils seront obligés de supprimer l'adresse. On ne sait pas.
Oui.
Si ils ont reçu l'OQTF
ou pas.
Là, on ne sait pas. Et comment les savoir, ça, on ne sait pas aussi.
Ah, d'accord. C'est une question délicate, c'est vrai, hein. Parce que, à la fois, on espère qu'il n'y a pas d'OQTF. À la fois, on se dit que peut-être qu'il y a une OQTF.
Voilà.
Mais comme cela remonte à 3 ans.
Une démarche, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire.
Effectivement, voilà. Je comprends très bien cela. Mais en fait, il y a eu un refus au niveau de la CNDA. Et vous n'êtes pas parti, vous n'avez pas fait un autre recours devant la juridiction suprême. Donc, vous avez fait aucune autre procédure, hein, judiciaire.
Rien du tout.
D'accord. Donc, à partir du moment où 3 ans se sont écoulés, même s'il y avait une OQTF, elle ne serait pas exécutable en l'état. Voilà, au bout de 12 mois, l'OQTF n'est pas exécutable. Ça ne veut pas dire que l'OQTF tombe. Maintenant, il faut prendre la diligence plutôt de faire une nouvelle demande. Vous pourriez solliciter l'administration pour savoir s'il y a eu une OQTF. Mais ça ne sert à rien. Au jour d'aujourd'hui, ça ne sert à rien. Ce qui est intéressant, c'est plutôt si la situation administrative de votre épouse n'est pas régulière jusqu'à présent, c'est de se concentrer à constituer une nouvelle demande. Il faut le faire parce que rester comme ça alors qu'on fait l'objet d'une OQTF, ça peut être dangereux. Et donc, vous, ce n'est pas ce qui est intéressant. Le fait de le savoir s'il y a ou ça, s'il n'y a pas, ça ne va pas impacter la procédure que vous allez faire. Donc, si vous envisagez de régulariser votre femme, il faut y aller. Il n'y a aucun obstacle maintenant pour le faire. Et au contraire même, vous devez le faire. Le danger, c'est de rester comme ça. Mais si vous tenez vraiment à savoir s'il y a une OQTF ou pas, si vous écrivez à la préfecture, ils vont vous le dire. Ou bien, allez avec son passeport au centre de réception des étrangers, vous donnez le numéro du passeport, ils vont carrément savoir, ou bien même mieux encore, parce que le passeport peut avoir changé ou bien être expiré. Vous donnez la copie du récépissé qui a été délivré à votre conjoint, à votre conjointe, pendant la procédure des droits d'asile. Ils vont vous dire carrément s'il y a eu ou pas une OQTF. Il n'y a aucun souci à ce niveau. Et même, le cas échéant, ils vont vous donner la copie là. Après, vous pouvez même, il y a un bureau, on va vous donner l'adresse de ce bureau, vous pouvez les écrire pour qu'ils vous donnent éventuellement, le cas échéant, la copie d'une OQTF qui aurait été délivrée à votre femme. Mais tout cela, pour moi, ce n'est pas pertinent. Quand on fait des actions, il faut que ce soit efficace et pertinent. Ce qui est pertinent pour moi, c'est de vous focaliser sur la régularisation de votre conjointe en utilisant ces éléments et les débouter du droit d'asile.
D'aller faire d'entamer une démarche pour qu'elle puisse avoir
un titre de séjour dans le cadre de la régularisation. Parce que l'asile, ça a été un peu saturé. Ne retourner, sauf s'il y a des éléments nouveaux, pertinents, comme par exemple la naissance d'un enfant et que dans son pays d'origine, il est de coutume que les filles, par exemple si c'est une fille, soient excisées, c'est un élément nouveau parce que l'enfant n'était pas né. Il y a quelques éléments nouveaux comme ça. Si ce n'est pas le cas, il ne faut pas réitérer la demande d'asile. On risque de vous donner une fin de non-recevoir avec les mêmes arguments qui vous ont été invoqués à la fois devant l'OFRA et devant la CNDA. Donc il faut faire une nouvelle demande d'asile en évoquant les éléments qui concernent votre conjoint. Et ces éléments-là, vous les savez déjà.
Et à part la demande d'asile, on peut entamer une autre démarche c'est seulement...
Ah oui, la démarche de régularisation.
Une démarche classique.
Une demande de régularisation du fait de l'intensité de ses attaches personnelles et familiales en France. Elle a vécu ici au moins pendant 3 ans, parce que la demande d'asile a été...
C'est depuis 2005 qu'elle est ici.
Depuis 2005,
et on est en vie commune depuis 5 ans aussi.
Ah oui.
Et on a trois enfants.
Mm-hmm.
On a trois enfants et la première est...
Scolarisée.
À son premier,
oui.
Elle est dans son premier année de l'école.
De l'école, d'accord, monsieur. Donc, oui. La situation de
quel genre de démarche on peut entamer?
Voilà, on va vous donner de manière globale ce qu'il faut. Après, si vous voulez dans les détails, ce sera plutôt un entretien personnalisé. L'objectif ici, c'est de dire des informations globales pour tout le monde. La démarche que vous pouvez entamer de manière globale, c'est une régularisation au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Pour la longévité de son séjour en France, elle a fait plus de 10 ans en France.
D'accord.
C'est un motif fondamental. Aussi, au regard de l'intensité de ses attaches personnelles et familiales, en l'occurrence ses enfants et vous. Donc, il y a beaucoup d'éléments en faveur de sa régularisation. Un dossier comme ça, d'accord, si c'est bien consulté, l'administration ne devrait pas dire non. Parce que votre conjointe remplit beaucoup de critères de ce que je vois là.
Alors, d'accord, Camille, pour terminer, on va peut-être vous donner le numéro de l'association. Hein. Vous pouvez noter le 06 15 05,
16.
Le 06 16. 05 45 51.
Voilà, et vous envoyez un SMS.
Vous envoyez un SMS. Hein. 06 d'accord. 16 05 45 51, mais vous précisez Africa Radio.
06 16 05 45 51.
Voilà, vous précisez Africa Radio. Merci pour votre intervention. On ne peut pas vous garder longuement. On va prendre Nelson. Est-ce qu'il est là, Nelson? Bonjour, Nelson.
Bonjour, maître.
Bonjour, Nelson.
Bonjour, Nelson.
Oui, je voulais me renseigner parce
alors,
que...
Alors, Nelson, il faut arrêter votre poste.
D'accord.
Bah oui, vous pouvez pas vous entendre...
Si j'ai deux personnes, c'est le poste, alors.
D'accord, voilà. Sinon, je vous mets un carton jaune, hein, comme Robert Brazza. C'est bon ?
C'est bon.
Alors, Nelson, nous vous écoutons, bienvenue.
Donc, mon souci est que je suis marié à une femme qui se trouve au pays.
Ouais.
Donc au Congo, mais sauf que ma femme elle est venue dans son service à une mission de travail ici en France. Donc moi j'ai commencé à penser si elle peut rester. Donc j'ai commencé à penser comme ça et c'est pour ça que je me suis dit quelles sont les informations ou quelles sont les démarches que je pourrais entamer pour que qu'elle reste ici. Mais sauf que elle est arrivée pour une mission de service et pour après retourner. Mais sauf qu'on est marié légalement partout.
Vous êtes marié légalement, hein?
Oui.
Civilement, en fait, on va dire, oui.
Marié en Afrique?
Oui, en Afrique, oui.
Ouais.
Ah, d'accord. Et donc, elle a un visa donc, de type court séjour, et vous souhaitez qu'elle reste ici?
Oui.
Et vous, est-ce que vous avez un droit à séjour en France?
Oui, je suis résident.
Vous êtes résident, d'accord. Oui. Très bien. Comme l'entrée sur le territoire français de votre épouse est régulière et que vous êtes marié civilement...
Oui.
Vous pouvez entamer ce qu'on appelle le regroupement familial sur place. Normalement, quand on fait du regroupement familial, il faut que l'autre conjoint soit à l'étranger, hors de France, et que vous demandez un visa de type D, long séjour, qui va lui donner la possibilité d'avoir un titre de séjour une fois en France directement. Il y a une exception, selon les circonstances, quand l'entrée est régulière, la personne a un droit de rester en France pendant le temps que vous allez entamer la procédure de regroupement familial, l'administration peut passer outre la condition du visa long séjour qui est exigée par la loi. Donc ça, c'est une première possibilité. C'est à vous maintenant de voir si vous remplissez les conditions du regroupement familial, à savoir le revenu et le logement décent qui peut accueillir au moins vous et cette personne, si vous êtes deux, si vous êtes trois, ainsi de suite. D'accord ? C'est une première possibilité. Maintenant, on peut être tenté à rester ici, à faire des procédures de régularisation. Tout ça, ça ne va pas marcher. Il faut faire très attention. Parce qu'on peut même reprocher à votre conjointe, en l'occurrence votre femme, de rester ici en violant la réglementation qui la concerne, parce qu'elle est ici pour un séjour précaire.
Oui, oui.
Voilà, elle est ici pour un séjour précaire. Donc, il faut faire très attention. Soit vous entamez la procédure de regroupement familial sur place, soit, selon la mission qu'elle a, il y a une nouvelle carte de séjour qui s'appelle ICT, Intra-Corporate Transfer. Ça veut dire que son employeur là-bas peut lui donner une mission qui peut lui permettre ici de rester pendant un temps.
Oui.
De une année à 3 ans. En fonction de la nature de la mission, en fonction du fait que son employeur là-bas a ici une succursale ou bien un établissement secondaire, ou bien qu'elle soit mandatée par rapport à une mission. Ça, c'est possible. Et mieux encore, avec cette carte, ses enfants, si vous avez des enfants là-bas, peuvent venir. Et pendant ce temps, vous pouvez faire un changement de statut, parce qu'on peut venir dans le cadre de cette mission-là. Je ne parle pas de transfert temporaire. Transfert temporaire maintenant qui est limité à 6 mois renouvelables, à 1 an. Mais si c'est la mission carrément de l'employeur là-bas qui justifie sa présence là-bas, l'employeur peut l'aider à rester ici légalement et que ça peut être jusqu'à 3 ans. Et cette carte est très intéressante. Il y a la carte ICT ou ICT mobile qu'il permet même d'avoir une mobilité intra-Europe. Si par exemple sa mission ne se limitait pas qu'en France, ça peut être aussi en Espagne, en Italie ou autre. Donc ce sont des éléments-là qu'il faut étudier avec un expert et voir la bonne solution adaptée à elle. C'est quelqu'un qui est venu ici en mission. Donc ce n'est pas quelqu'un qui est venu ici en immigration lambda. Donc elle avait quelque chose à faire dans son pays d'origine. Comprenez? Voilà, il faut parfois le mieux, c'est l'ennemi du bien. Voilà. Et si vous voulez le mieux, il faut bien le paramétrer. Sinon, elle risque de perdre à la fois la mission et perdre à la fois le titre de séjour et devenir sans papier et même retourner à la case départ, pire qu'un sans papier lambda, parce qu'on va lui reprocher à elle carrément d'avoir violé la réglementation sur les missionnaires. D'accord ? Ceux qui sont ici en tant que missionnaires.
C'est bon, Nelson ?
Donc, en cas de besoin, n'hésitez pas, c'est une question technique, mais qu'on maîtrise très bien à notre niveau. Donc, si vous avez besoin de conseils supplémentaires, un SMS.
Voilà, envoyez-nous un SMS à l'association. Merci beaucoup, Nelson. Avant de poursuivre avec nos auditeurs en ligne, à l'Utah, on va tout de même éplucher les questions. Hein.
Oui,
on va revenir justement sur la question de Yolande qui nous avait posé la semaine dernière cette question depuis Rouen. Je veux faire venir légalement ma sœur qui est en Côte d'Ivoire pour qu'elle m'aide à garder mes enfants et les aider pour leurs devoirs et pour certaines tâches ménagères. Existe-t-il des possibilités de la faire venir en France par le regroupement familial, bien qu'elle soit majeure ?
Oui, comme on vient de le dire, le regroupement familial est un procédé qui permet effectivement de faire venir des membres de sa famille. Mais l'une des conditions, si par exemple c'est un conjoint, il faut que le conjoint soit âgé de 18 ans, au moins. Si c'est un enfant de la famille, il faut que l'enfant soit âgé de moins de 18 ans. Ça, il faut le retenir assez basiquement. Or, dans l'espèce, l'enfant est âgé de plus de 18 ans et il est majeur. Donc, on ne peut pas paramétrer ici un regroupement familial. D'ailleurs, la première réponse à cette question, il ne faut pas que Yolande perde du temps à essayer de faire du regroupement familial pour sa sœur, pour qu'elle vienne l'aider. Ce sera impossible parce que...
Donc, ce n'est pas possible.
L'obstacle de l'âge, non. Sur cet angle-là, sur l'angle qu'elle a posé la question, il n'y a pas de possibilité. Maintenant, Yolande aimerait certainement savoir s'il y a d'autres possibilités. Et s'il y a d'autres possibilités légales pour que sa sœur vienne. Effectivement, selon le statut de Yolande, si Yolande, par exemple, était naturalisée et que sa sœur est âgée entre 18 et 21 ans et que Yolande prend à charge sa sœur et que l'autorité parentale est exercée sur sa sœur par Yolande, elle pourrait demander un visa de type D pour la faire venir ici. Ce n'est pas du regroupement familial. Voilà, c'est l'exercice du droit à une vie privée familiale normale en tant que ressortissant français qui prend en charge une personne majeure, âgée de moins de 21 ans, ça veut dire entre 18 et 21 ans, et prouver que c'est bien elle qui l'entretient, avec les envois d'argent, ainsi de suite, avec le paiement de son école, ainsi de suite. Ça peut être une possibilité. Mais autre possibilité, maintenant, qu'il faut faire, après maintenant, il y a des raccourcis, il faut le dire quand même, c'est la loi a évolué, ce qu'on appelle, avant il y avait ce qu'on appelait les filles au père.
Les filles au père.
Les filles au père. Au père, A-U, et père, A-I-P-A-I-R.
D'accord.
Ça veut dire, avant, les étudiants qui venaient, les étudiantes qui travaillaient chez des personnes, c'était des filles au père. On est hébergé et en contrepartie, on participe à l'entretien de la maison, on s'occupe des sorties d'école, on amène les enfants à l'école, on les amène
au parc.
Voilà, effectivement, tout ce qu'il faut. Là, ça a été acté par la loi. La loi du 10 septembre 2018, en son article 43, a posé le principe maintenant à organiser ce chemin. Une carte de séjour temporaire d'un an renouvelable une fois, portant la mention jeune au pair, ça peut maintenant être un garçon ou une fille. Avant, on disait les filles au pair, maintenant c'est jeune au pair. Donc, Yolande pourrait voir cela. Seulement, comme c'est sa sœur, ça va être un obstacle. Parce que pour cette carte, il ne faut pas qu'il y ait un lien de parenté. Voilà. Donc, effectivement, c'est là où les gens, parfois, pour faire venir, vont dire que oui, c'était Madame Bakayoko, maintenant c'est Madame Koulibaly. Donc, c'est le seul obstacle. Sinon, si sa fille a eu un enseignement secondaire ou bien des notions en français, et qu'elle, ils vont mettre une convention tous les deux, comme quoi la personne viendra ici pour développer ses connaissances en langue française, aura une petite inscription, va travailler maximum 25 heures par semaine, et que Yolande va lui donner un minimum d'argent de poche. En contrepartie, elle va s'occuper d'entretien de la maison ou des enfants comme elle le veut. Elle aura droit à un visa long séjour depuis le pays d'origine.
Voilà.
Donc, de manière globale, au-delà de Yolande, il faut dire à nos auditeurs que si vous avez un membre de votre famille, je ne parle pas de votre sœur directe, et que vous voulez faire venir, la loi a fort heureusement évolué avec la nouvelle carte jeune au pair. on peut faire bénir.
Carte jeune au père.
Voilà, beaucoup de membres de famille. Les Européens le font, hein, les Américains, tout le monde le fait. Mais nous, ouais. Africains, on ne l'utilise pas beaucoup. On ne le connaît pas. Alors qu'effectivement, parfois, on a sa cousine là-bas qui ne fait rien et qui pourrait nous aider. Parce que parfois, monsieur travaille, madame travaille.
Exact.
On n'a personne pour s'occuper des enfants.
Et surtout pour la garde des enfants.
On n'a pas forcément les moyens de payer quelqu'un d'autre à l'extérieur avec un format de contrat de travail qui est assez fastidieux. Chacun gagne 1500 euros. Ce n'est pas du tout pratique. Alors que l'autre, elle est à Yopougon. Notre
célèbre commune.
Mais je préférerais amener ma sœur de Yopougon quand même pour travailler ici.
Ouais.
Non seulement il y a la proximité familiale, il y a la compréhension qu'elle aura que l'employé lambda n'aura pas du tout. Donc saisissez cette possibilité.
En espérant que ça se passe bien, parce
bien.
Que des fois aussi.
Bah, parfois aussi ça déborde.
Ça déborde.
Dès qu'elle vient, il se trouve son copain, M. Phil, qui l'amène. Bon, on va vivre à Carcassonne. Il va abandonner la Paris.
Alors, on va
donc, Phil, juste pour conclure sur ça,
rapidement.
L'article L313-9 est une nouvelle possibilité pour vous pour faire amener des membres de votre famille. Dans le cadre de cette carte de séjour appelée Jeune au pair.
Jeune au pair. Alors, la question de Monsieur Mandy depuis Évreux. Voilà. Alors que j'étais étudiant en France, j'ai eu une fille née en 88 en France. Je suis rentré en 90 au Sénégal avec ma fille à la fin de mes études. Je suis revenu vivre en France avec ma fille et j'ai été réintégré à la nationalité française. Comme je suis né avant l'indépendance de mon pays. Mais ma fille n'a pas bénéficié de ma réintégration au motif qu'elle est majeure. Est-ce normal? Comment peut-elle bénéficier de la nationalité française?
Ah oui, c'est une question très délicate. Donc là, si je résume bien, cette personne est née avant l'indépendance de son pays.
Ouais.
Ensuite, pendant qu'elle faisait ses études, ce monsieur a eu un enfant, né en France, donc élément important. Mais ils sont rentrés au pays. Le monsieur est revenu ici. Comme il est né avant l'indépendance, effectivement, la loi lui permet la réintégration. Ça veut dire que le monsieur a eu la nationalité pas par une déclaration acquisitive qui aurait un effet rétroactif dont pouvait bénéficier sa fille née ici, mais c'est une réintégration. Ça veut dire qu'il y aura un décret et ce décret ne va pas produire d'effet collectif pour les enfants majeurs, c'est comme la naturalisation.
Mmh.
C'est pour cela qu'on lui a refusé la nationalité pour sa fille, si bien qu'elle soit née ici en France.
Mmh.
Donc retenez globalement que la naturalisation comme la réintégration ne produisent pas d'effet collectif sur vos enfants majeurs. Ça veut dire que si vous avez deux possibilités d'avoir la nationalité française, réintégration ou déclaration acquisitive parce que vous êtes né avant l'indépendance de votre pays, il faut préférer cette dernière possibilité parce que celle-ci va vous permettre de faire bénéficier de votre nationalité tous vos enfants. Si vous le faites par la réintégration, quelqu'un vous conseille à le faire, il aura évité privé à toute votre famille de bénéficier de l'effet collectif de la nationalité. Donc ce sont de petites décisions que les gens font des amalgames en lisant des textes sur Internet ou bien en écoutant des pseudo-experts qui vous balancent carrément des gens qui s'improvisent experts de plus en plus dans tout. Hein.
Ouais.
C'est comme les coachs, hein. Il y a des gens qui se réveillent. Tout le monde peut être coach, mais il faut se former. Tout le monde peut être un bon juriste, mais il faut se former. Il
ne
faut pas se lever parce qu'on a envie de le faire et conseiller des gens parce que c'est leur vie privée qui sont en jeu. Et pour revenir à M. Mendy, ce qu'il faut maintenant, un élément très important, et un conseil que je n'allais même pas dire, mais on va dire comme on est généreux, sa fille est française, mais ce n'était pas le bon schéma. Pourquoi? Parce qu'il y a une disposition de la loi, avant il y avait les articles 23 et 24 du Code de la nationalité, qui ont été abrogés en 93, mais qui fort heureusement ont été reproduits dans les nouvelles dispositions de l'article 19 et suivant du Code civil, qui dit que l'enfant, son enfant en tant que tel, parce que son père est né sur un territoire français, qui fit sous souveraineté française et que sa fille est née sur un territoire français, de facto, personne ne peut refuser la nationalité française de M. Mendy.
Mm-hmm.
Si M. Mendy nous contacte, on peut lui assurer que sur ce coup, effectivement, sa fille aura la nationalité française. Donc retenez-le aussi, si vous êtes dans l'hypothèse de cet étranger, votre fille a la nationalité. Ne l'espérez pas du fait de votre réintégration ou de votre naturalisation, mais d'elle-même, elle est française et personne ne peut lui refuser cela. J'ai eu à traiter deux cas de figure en 2019 qui sont similaires et qu'on a eu gain de cause. Et cela va de soi, c'est ton droit.
Alors, avant de repartir au téléphone, on va aussi prendre la question de Audrey. Audrey qui vit à Lille, ma demande d'asile pour ma fille qui risque l'excision a été rejetée au motif que dans mon pays, le Cameroun, cette pratique n'est pas répandue. J'ai contacté une association qui m'a dit que ce n'était pas la peine de faire un recours. Est-ce que j'aurai quand même des chances si je décide de faire le recours?
Une question intéressante. Parce qu'effectivement, ce que l'association lui a dit, c'est juste le résumé d'une pratique de l'OFRA qui a tendance à dire que comme dans votre pays, on l'a étudié, vous vous rappelez, Phil, il y a un mois, que le taux de prévalence de l'excision au Cameroun était très faible.
Très faible,
oui. On l'avait dit, 1 à 2%.
Au Gabon aussi, ça n'existe pas. Je tiens à le préciser.
Bon, Phil, comme vous n'avez pas vérifié tout le monde, qu'est-ce que c'est vrai, comme vous n'avez pas eu le temps de vérifier toutes les Gabonaises.
Je suis sûr.
Hein, allez, j'en suis sûr. Geneviève, viens ici. Chantal, viens, vous ne l'avez pas fait, donc il faut avoir quand même une petite nuance. Hein. Ouais. Donc, je sais que le Gabon, c'est pas, vous n'avez pas une population nombreuse, mais vous n'avez pas eu le temps de vérifier si toutes les Gabonaises sont excisées. Donc, là, c'est pour vous titiller un peu. Donc, pour revenons à notre propos. Donc, pour ce cas de figure de Audrey, effectivement, on va lui dire ça. Même certains avocats vont lui dire que, oui, il n'y a pas beaucoup de chance parce que dans votre pays, le taux de prévalence n'est pas du tout développé. Mais je leur dis que c'est faux. Ce que l'OFRA dit, c'est faux. Ce que la loi considère comme groupe social persécuté, cela ne veut pas dire qu'il faut que majoritairement, les jeunes filles au Cameroun soient excisées. Non, c'est le fait que, dans l'absolu, cette fille peut risquer ça de par sa famille, de par son appartenance ethnique, même si le taux de prévalence est faible, mais que c'est avéré qu'il y a un risque d'excision. À partir de ce moment, il y a une évolution jurisprudentielle qui a été actée par le Conseil d'État et par la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile, elle-même. Donc, quand on est expert, il faut suivre l'évolution. Il y a une évolution très récente de 2019 et de décembre 2019, c'est pas loin, décembre 2019, ouais. Et que la CNDA elle-même a retenu la leçon qui lui a été donnée par le Conseil d'État. Donc, il faut dire à Yolande qu'effectivement, elle a des chances de faire un recours qui ont fortement des chances d'aboutir. Donc, c'est la réponse qu'on doit lui donner. Contrairement aux informations qu'on lui avait données auparavant, effectivement, elle doit faire le recours et probablement, si c'est bien fait, elle devrait avoir gain de cause.
Question à présent de Bakayoko. Ma nationalité française a été retirée hein, pour raison de polygamie. J'ai été contraint de me séparer avec ma première femme au Mali pour garder ma femme française avec qui je vis en France. Avec le certificat de divorce, est-ce que je pourrais récupérer ma nationalité française ?
Là, c'est déjà très délicat parce que j'ai un peu peur parce que pour lui, parce qu'il s'est débarrassé d'une femme.
Ah ouais, c'est vrai.
Peut-être exprès pour la naturalisation. Déjà, humainement parlant, ça cause problème. Je me rappelle, j'avais fait une émission sur une chaîne de télévision ici et contre une dame qui prétendait que la polygamie était une barbarie. Voilà. Pour moi, c'est comme j'avais dit, hein, c'est des choix. Il ne faut pas juger les mœurs et les coutumes des gens. Je ne concevais pas les choses ainsi. Et qu'à ce niveau, au niveau de l'émission, comme ce qu'a posé Bakayoko, j'ai relevé que les administrations dans les pays européens incitent les étrangers polygames à décohabiter ou bien à se divorcer d'une des épouses pour pouvoir garder leur titre de séjour. Et je me rappelle aussi d'une dame à qui on avait retiré son titre de résident parce qu'on lui avait reproché de ne pas divorcer de son époux qui lui a pris la décision d'aller épouser une deuxième femme. Elle n'a rien fait, cette dame. Elle est la première femme vivant ici. On lui a dit que, madame, si vous voulez garder votre titre de résident, il faut divorcer. Ouais. Ça, c'est pas légal. C'est humainement intolérable parce que ce n'est pas de son chef. Et donc, effectivement, on a tendance à vous demander de décohabiter ou de divorcer. Lui, il a vu la décision. Ça, c'est pas la nationalité, c'est la nationalité, c'est pas le titre de séjour. On ne lui a pas demandé. Il a vu que le motif, effectivement, de son ajournement, de son rejet, c'est la polygamie. Parce qu'en France, nul ne peut être naturalisé s'il est polygame. C'est un fait. Ouais. Et même, il fallait même le savoir et anticiper, prendre les dispositions avant même de déposer sa demande de naturalisation. Et comme c'est arrivé, je ne sais pas si quelqu'un lui a conseillé. Il a divorcé, mais ça n'a servi à rien. Il a perdu le pile et le face. Il a perdu le beurre et l'argent du beurre. Parce qu'au moins, il aurait gardé sa femme. Et le fait d'avoir divorcé, malheureusement, M. Bakayoko ne peut pas du tout recouvrer sa nationalité française. Voilà. Parce qu'on lui a donné ça et qu'il a violé une disposition fondamentale. On peut annuler le décret. Donc, sous cet angle-là, il n'y a aucun moyen de revenir à sa nationalité française parce qu'il a divorcé. Néanmoins, ce qu'il peut faire avec son certificat de divorce montrant que maintenant il est monogame, il peut redemander la nationalité, faire une nouvelle demande avec une nouvelle lettre de motivation en attestant que cette fois-ci, je vais être un bon élève, je ne vais plus violer les lois sur la citoyenneté française, je ne vais plus avoir une deuxième femme. Si je veux fréquenter une deuxième femme, je prendrai mon scooter comme tout le monde et j'irai la voir la nuit.
On va donner la parole à Camara. Bonjour Camara.
Bonjour, c'est Monsieur Camara. Comment allez-vous?
Monsieur Camara, bienvenue.
Bonjour, Monsieur Camara.
Il nous reste 4 minutes d'émission. Allez-y, Monsieur Camara.
Pour moi, c'est pas trop long. Donc, je voulais juste savoir, moi, je suis un détenteur de statut de réfugié. Donc, je suis mauritanien. Donc, il y a ma femme qui est venue ici. Bon, on s'est mariés religieusement, mais elle est là. Donc, je voulais savoir. Normalement, je devrais faire un regroupement familial normal. Mais comme elle est là déjà, Qu'est-ce que je vais faire, c'est-à-dire le mariage civil sur place. C'est tout.
D'accord. Et votre femme est venue comment? Elle est entrée de séjour?
Non, elle est venue avec un visa.
Elle est venue avec visa, elle est restée. Donc ça veut dire que maintenant, elle n'a plus de titre de séjour, hein?
Non, elle n'a pas de titre de séjour, elle a juste venu avec un visa.
Oui, mais monsieur, si on est venu avec un visa, à la fin du visa, est-ce que j'ai demandé, est-ce que la femme a pu avoir un titre de séjour ou pas? Donc vous m'avez dit non. Elle n'a pas de titre de séjour, hein?
Non, du tout.
Pas encore.
Très bien, pas encore. Est-ce que le visa est fini ou pas?
Non, pas encore.
Le visa n'est pas fini?
Non, elle a un visa d'un an.
Non, faites attention, il n'y a pas de visa. Ce que je veux dire, c'est que le visa peut être valable d'un an, mais on ne peut pas rester. Il n'y a aucun visa qui permet de rester ici un an.
Non, le visa est valable un an.
Voilà, le visa, ça veut dire qu'elle doit sortir quand même. Dans les 3 mois, elle doit sortir. Ça, on te donne un visa avec entrée multiple, c'est ce que cela veut dire. Il n'y a pas un visa en France ou bien dans un pays européen qui vous permet de rester ici un an d'affilée. Ça n'existe pas. Donc, il faut faire attention. Même parfois, c'est marqué 2 ans. Si vous restez, vous êtes dans l'illégalité.
Ouais, si aux États-Unis, je crois que c'est 6 mois.
Donc, voilà. Elle doit retourner.
Ah oui, elle doit retourner. Elle doit sortir pour pouvoir revenir légalement. Sinon, elle sera bloquée. Vous comprenez? Et c'est marqué 1 an. Ce n'est pas un titre de séjour. Si c'est 1 an, c'est un titre de séjour. Ce qu'on appelle visa long séjour, valant titre de séjour. Maintenant, ça veut dire visa touristique, c'est différent. Si on a donné un visa long séjour, valant titre de séjour, ça veut dire que ça, c'est un titre de séjour. Ça a été fait dans le cadre d'un regroupement familial ou d'une réunification familiale.
Il faut que ça soit un visa long séjour, c'est ça?
Voilà, un visa long séjour peut être de 1 an, un visa long séjour valant titre de séjour, ça existe ça. Mais sinon, si c'est un visa touristique de 1 an ou de 2 ans, beaucoup de gens se trompent, ils restent ici. Et on les informe mal alors qu'on doit ressortir. Dans certaines situations, on doit ressortir au bout de 1 mois et demi. Sinon, le principe, c'est au bout de 90 jours, il faut sortir et pouvoir rentrer.
C'est-à-dire, je vais préciser, elle a un visa de Schengen d'Espagne, donc elle est venue ici. Exactement, elle est venue en Espagne, après elle est venue ici, voilà.
Oui, ça vous l'avez pas précisé, vous venez de le préciser.
Oui, c'est-à-dire, vous m'avez, c'est pour cela que je voulais préciser que ce soit clair. Donc elle a un visa d'Espagne.
Mais monsieur, ne vous énervez pas là, on est en train de vous aider là.
Non, je ne m'énerve pas, je suis en train de faire de sorte que vous compreniez.
Ah d'accord.
Voilà.
Alors, monsieur Camara, en fait, en substance, vous voulez savoir si vous pouvez effectuer un mariage civil.
Voilà, c'est tout.
Voilà, c'est la question.
C'est tout. Alors, donc, si c'est tout, on lui donne la réponse. Parce que je posais la question pour lui donner beaucoup d'informations qu'il savait ignorer. Mais elle a dit que c'est tout. Donc, on va rester sur ça.
Vous m'avez dit que ça restait 4 minutes. C'est pour cela que je voulais aller.
Voilà, il reste une minute d'ailleurs. Allez.
Voilà. Il n'y a pas de problème. Ok, monsieur Camara. Hein. Donc, effectivement, le mariage suppose que votre femme ait son lieu de vie ici. Ça veut dire qu'elle soit ici en résidence. Sinon, les autorités municipales peuvent refuser de célébrer le mariage. Néanmoins, d'autres ne le feront pas parce que les mairies ont une certaine liberté. Si une mairie vous dit non, en fonction de leur orientation politique, il y a des mairies, par exemple, comme à Montreuil, à Paris, où ils ont une conception très humaniste du mariage, ils vont vous marier. D'autres mairies qui ont des penchants plus ou moins d'extrême droite pourront vous dire non, et interprétant strictement la loi et refusant le mariage. Donc, dans l'absolu, il faut qu'il y ait normalement une résidence ici. Et même irrégulièrement, vous pouvez le réclamer parce que le mariage est un droit fondamental qui dépasse la situation administrative. Donc, ça, c'est un élément. Autre élément que je peux vous donner par rapport à ça, la loi a changé au niveau de vous êtes réfugié. Pourquoi ne pas demander un titre de séjour pour votre femme? C'est pourquoi je vous pose ces questions sur le type de visa.
Voilà, il ne nous reste plus que 20 secondes.
Oui.
Merci, Camara.
Camara, on va revenir sur ça pour vous donner, parce que vous avez la possibilité, la loi a changé, votre femme a le droit, même si son visa est fini, d'avoir un titre de séjour. La loi a changé depuis le 10 septembre 2019.
Merci.
Le 2018 est donc entré en vigueur le 14 décembre 2018, d'accord?
Merci.
On va y revenir.
Merci à Lutel.
Merci, Phil.